Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 22e numéro du Player Club. Bonsoir à Alès.
Bonsoir Inks.
Alors ce soir on va parler de doublage, on est à l'école multimédia une fois encore. On vous vient en différé cette fois-ci exceptionnellement, donc vous pouvez réagir sur Twitter. Malgré tout on pourra pas tellement vous répondre et poser des questions à notre invité. Notre invité qui est ?
Qui est Serge Thirier. Bonsoir Serge.
Bonsoir les garçons.
Ça va bien ?
Ça va super.
Alors je vais présenter vite fait Serge, donc quand même acteur, réalisateur, comédien de doublage, directeur artistique, tout ça.
Tout ça, absolument.
Juste en quelques mots quand même pour qu'on comprenne bien un petit peu, surtout par rapport au doublage et au doublage de jeux vidéo, est-ce que tu peux nous faire un petit peu ton parcours par rapport à ça, votre parcours par rapport à ça? J'ai l'habitude de tutoyer mes invités, c'est
une catastrophe. Tu peux tutoyer ton invité aujourd'hui, exceptionnellement.
Fantastique, merci.
Bah écoute, le parcours donc par rapport aux voix, avant les voix il y a d'abord le théâtre, ensuite il y a très peu de cinéma ou de télévision, mais très vite la voix avec 10 ans de publicité,
ouais.
Principalement, puis arrivant dans les studios en faisant des rencontres, du documentaire, du doublage et du jeu vidéo à l'époque où ça a commencé, où il y a eu les premières voix de jeux vidéo.
Bien sûr.
Donc j'ai commencé à faire dans les années 96, 97, je pense, les premières voix. Enfin, j'ai fait partie des premières voix qui faisaient des voix de jeux vidéo.
Avec l'arrivée des jeux sur les CD, ce genre de choses.
Exactement.
Pour qu'on puisse stocker.
Bien sûr, puisqu'avant ça, il n'y avait pas de place.
Tout ça.
Et donc, en gros, c'est arrivé dans les jeux vidéo, c'est plutôt un hasard professionnel plutôt qu'une volonté de ta part, en fait.
Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Il se trouve que, et je suis même venu à jouer parce que je faisais des voix, en fait.
C'est très intéressant, pour le coup, on va peut-être y revenir plus tard, mais d'abord, Alès, si tu peux attaquer avec la première question.
Oui, alors on le sait, le doublage de films ou de séries, ça se passe en studio, on diffuse l'image en même temps que la bande rythmo pour pouvoir lire.
Absolument.
Dans le jeu vidéo, c'est un petit peu différent, vu que les personnages du jeu vidéo, ils parlent pas forcément que durant les cinématiques.
Absolument.
Du coup, est-ce que le processus est différent ?
Le processus est tout à fait différent. Comme moi, j'ai dirigé pendant 10 ans pas mal de jeux, j'ai vu passer quasiment tout le monde. Il y a des vieux routards du doublage qui sont incapables de faire du jeu vidéo parce que on n'a pas d'image, on n'a pas de contexte, on n'a pas de situation. Des fois, on est content quand on sait si le personnage est un homme ou une femme. C'est un cas extrême, mais c'est arrivé.
Oh.
Et on n'a que du texte qui n'est pas forcément dans ce qu'on appelle la continuité dialoguée. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'expérience. Directeur artistique de jeux vidéo, ça demande en réalité beaucoup d'expérience de comédien, de gestion des comédiens, de gamer tant qu'à faire, parce que ça permet de se projeter. Vous avez une phrase qui n'a rien à voir avec rien, sans aucun contexte, et de se dire, ok, vu la nature de la phrase, je suppose que vu la nature du jeu, ça va s'intégrer comme ça, donc on va la faire comme ça.
Est-ce que je parle directement au joueur ? Est-ce que je parle à un autre personnage ? C'est ce genre de contexte-là qui peut être important.
Absolument. Et puis dans quelle situation ? Et puis ça, en réalité, c'est un indice pour le joueur, c'est pas vraiment une situation. Enfin, il y a beaucoup d'embûches.
Très bien. Juste aussi pour qu'on comprenne bien par rapport à ça, donc vous vous retrouvez finalement avec, au niveau du doublage, du texte, quelques indications et rien de plus.
Grosso modo, c'est ça.
Souvent,
et la voix originale.
La voix originale.
La voix originale qui...
Aide sur les intonations, j'imagine.
Voilà.
Très bien.
Voilà.
Et pour le coup, une autre question qui est directement liée à ça, parce que le jeu vidéo est un média interactif, est-ce que ça laisse la place à l'improvisation ?
Non, du tout.
Absolument pas.
Aucune.
Parce que ce qui est amusant, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un jeu qui est sorti relativement récemment, qui est Portal 2, dans lequel si le joueur ne fait rien, par exemple, au bout d'un certain temps, certaines phrases, comment dire, de certains personnages se déclenchent automatiquement, simplement pour divertir le joueur, même s'il appuie absolument sur rien. Ça, par exemple, c'est complètement calculé, c'est complètement écrit la plupart du temps.
Ah, c'est toujours écrit. C'est toujours écrit. Après, on peut se permettre en studio, enfin, moi, en tant que directeur artistique, je peux me permettre de dire, bah, tiens, finalement, ça, ce sera mieux dans ce contexte, dans ce que je comprends du contexte de la situation.
Bien sûr.
Je pense que ça, ce sera mieux. Donc, on se permet on a quelques libertés. Mais on n'improvise pas parce que tout est codé. Vous êtes bien placé pour le savoir, je pense. Tout est super codé. Donc, une phrase aléatoire, en fait, a été prévue.
Elle est piochée dans un voilà. sac de choses qui ont déjà été prévues, effectivement.
Voilà, absolument.
On parlait il y a juste aussi un instant de conditions finalement assez bizarres, puisqu'on a assez peu de détails sur le personnage qu'on va jouer. Est-ce que ça veut dire que vous intervenez très tôt dans le développement du jeu? Beaucoup plus proche.
On intervient très très tard dans le développement du jeu. Il faut savoir qu'on est. Ça se fait en même temps. Je sais pas si vous êtes familier ou si les auditeurs sont familiers du processus, les dates de soumission, ce genre de choses, etc. On ne peut pas rater la date de soumission. Ce qui veut dire que, en fait, on fait les voix françaises de jeux qui ne sont jamais finis, qui sont toujours en train d'être développés. Donc, non seulement on a peu d'informations, mais en plus, on n'a pas le moyen d'en avoir. Il est très très rare de travailler, par exemple, sur des cinématiques finales.
D'accord. Ah oui, quand même. C'est.
Ah, mais c'est extrêmement rare. Moi, j'ai fait. Il y a des jeux. Bon, je ne citerai pas. Hein, je ne balancerai pas. Mais j'ai enregistré. Vous savez ce que veut dire lip sync? Lip sync, ça veut dire qu'on est super conforme à la bouche du personnage. On nous a demandé de faire du lip sync sur du storyboard.
Et c'est très étonnant
parce que
dans le jeu vidéo, on pourrait justement, puisque c'est du code, recaler les lèvres sur la voix du comédien.
Tout dépend si le moteur le prévoit.
Mais il faut que le moteur le prévoie,
etc.
En plus, l'équipe du jeu le prévoit aussi pour simplement les langues étrangères, par rapport à la langue originale.
Mais pour ça, il faudrait que les équipes de développement, souvent américaines, soient déjà au courant qu'il existe d'autres pays dans le monde et que ça va être plus tard un problème et que ça a été prévu en amont. Or, depuis, je vous parle depuis quoi, 96-97, on n'a pas spécialement l'impression que ça a évolué au niveau des développeurs.
Mais du coup, j'imagine que parfois, il doit y avoir des retakes ou même carrément des séquences enregistrées qui ne sont pas du tout utilisées dans la version finale.
Des retakes, oui, quand c'est vraiment flagrant ou quand on a le temps. Parce que par rapport à ces dates de soumission dont on parlait, des fois, ils n'ont pas le temps. Et sinon, ton autre question, c'était
des enregistrements en fait qui sont pas utilisés dans la version finale. Si jamais ils décident de finalement supprimer ce passage, alors que ça a déjà été enregistré.
Ça arrive. J'ai déjà réenregistré intégralement des jeux, par exemple.
Ah bon. D'ailleurs, au niveau de la considération de la traduction et surtout du doublage français par rapport justement aux autres langues, est-ce que le français est plutôt bien loti par rapport au rapport avec le reste du processus de développement et d'édition du jeu? C'est-à-dire, est-ce que c'est de manière internationale? Je sais pas si t'as directement la vue sur tout ça, mais il y a un instant, tu disais qu'il faudrait que les Américains, par exemple, soient au courant que bah voilà, ça va être traduit en d'autres choses.
Prennent conscience très tôt du processus de localisation. Or, c'est pas le cas. On est vraiment la dernière roue du carrosse.
D'accord. Et je me demandais si, au niveau international, par exemple, si pour d'autres langues qui sont un peu moins parlées, simplement d'autres langues européennes comme l'italien, l'allemand, etc. Si tu avais eu vent que ça se passait un peu différemment.
C'est pareil, c'est pareil. J'ai été il y a plusieurs mois chez un développeur, directement, c'est une des rares fois où on a pu aller directement chez le développeur, et il y avait tous les représentants de toutes les langues.
Ouais.
Et on avait tous la même problématique. On avait tous la même problématique, c'est-à-dire enregistrer les plus grosses licences qui doivent sortir à Noël en plein mois d'août quand il n'y a plus aucun comédien présent, par exemple.
Ah, ça, oui, effectivement.
Et ça, ce sont des contingences, enfin, des contraintes qui sont liées au marketing et à la sortie, mais ce qui nous n'arrange pas notre travail.
Tant qu'ils vont en sortir les gens en novembre, décembre pour Thanksgiving et pour Noël, effectivement.
Voilà, et donc il faut les enregistrer au mois d'août.
Ah, ça, c'est vraiment.
C'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce que pour nous, c'est extrêmement compliqué.
Effectivement.
Mais du coup, est-ce qu'en termes de planning, c'est plus compliqué de travailler pour le jeu vidéo ou pour les autres secteurs dans le doublage?
J'ai touché à tout. J'ai tout fait. Le pire, c'est le jeu vidéo.
Ça a le mérite d'être clair.
C'est honnête, effectivement.
Non, mais c'est le plus difficile pour tout le monde. C'est le plus difficile pour les maisons de production, pour les studios d'enregistrement. Pour les comédiens, c'est ce qu'il y a de plus exigeant parce qu'il faut ce qu'on appelle une intelligence du texte hors pair, justement, parce que on fait pas au théâtre, on fait ce qu'on appelle du travail de table, c'est-à-dire on se pose, on dit ok, qu'est-ce qu'on va faire, on connaît les tenants, les aboutissants, voilà, on en réfléchit, on choisit des options. Là, vous arrivez en studio, vous ne savez pas ce que vous allez faire. On vous dit voilà, ton personnage c'est un grand guerrier ou c'est un orque, c'est un nain, machin, etc. Et puis vas-y. Et pendant 3 heures, tu enquilles des phrases qui ne sont donc pas forcément dans la continuité dialoguée ou tu ne sais pas forcément à quoi tu réponds. Donc voilà, on se projette beaucoup dans ce qu'on suppose que ça va être. Et quand on réussit une bonne VF, c'est qu'on s'est bien projeté en amont. On a beaucoup fait fonctionner son imaginaire. Et je peux comprendre, moi je me suis déjà fait J'étais contacté sur Facebook, je me rappelle, par quelqu'un qui m'a dit « Je voudrais que vous me donniez absolument l'adresse de ce studio, parce que ce qu'ils ont fait, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Regardez cette vidéo. » Et on voit quelqu'un en gros plan, un personnage d'une très grosse licence, en gros plan, parler, avoir une longue séquence, complètement décalé. Bah oui, et donc je me suis un peu renseigné auprès du... Ce n'est pas moi qui avais dirigé, auprès du DA. Et il m'a dit « Bah oui, on nous a demandé de faire du lip-sync sans nous donner l'audio. » Même l'audio. Donc, à un moment donné, il faut le rendre, le fichier. Et puis, si ça ne revient pas pour qu'on le recale et qu'on le refasse, ben, ça part comme ça dans le jeu. Donc, voilà, ça, c'est des exemples extrêmes, mais qui arrivent et sur lesquels on ne peut pas. Je vous assure qu'on se fait beaucoup allumer quand on fait les VF. Vous le savez, on se fait souvent allumer. Et puis, régulièrement, quand il y a une bonne VF, c'est enfin une bonne VF. Donc, le nombre de « enfin une bonne VF » est arrivé souvent, mais... Mais il y a une sorte de snobisme comme ça qui est un peu fatigant, parce que vraiment on se donne beaucoup de mal pour arriver à faire quelque chose qui soit cohérent, qui tienne la route. Et puis des fois on peut pas lutter contre le produit lui-même ou contre le jeu lui-même. Genre par exemple, je vais vous dire un gros cliché qui arrive souvent, un excellent jeu avec une mauvaise VF sera considéré comme ayant une bonne VF. Un très mauvais jeu avec une très bonne VF sera considéré comme ayant une mauvaise VF. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé quand je dirigeais vraiment beaucoup d'avoir des jeux qui sortent la même semaine, avec la même équipe, les mêmes gens, etc. Un, il se fait encenser, l'autre se fait allumer complètement. Or, c'est les mêmes, on est les mêmes, on a mis le même cœur à le faire en studio, on avait tout le monde a été à donner de son meilleur pour faire une super VF. Et voilà, on fait bon. Bah, on peut pas lutter contre le jeu lui-même, en fait. On peut pas lutter contre. C'est un peu plus fort que nous. Mais sachez qu'on fait au mieux, quoi. C'est l'occasion, parce que vous devez avoir pas mal de gamers qui vous écoutent.
Oui.
On fait vraiment au mieux, quoi. Et c'est que des pros, hein. Parfois, la plupart du temps. La plupart du temps. J'ai entendu des choses, qui sont risibles.
Non, des petites anecdotes, non?
Moi, j'en ai pas, mais si vous en avez. Oui, j'en ai, mais c'est des gens que je ne connais pas. Pour le coup, c'est pas des gens avec qui je travaille, et on s'est même posé des questions. Il y avait, je me rappelle, comment ça s'appelait, j'ai pas balancé.
On balance pas sur les copains. Donc,
je les connais pas, des gens que je connais pas, mais il y a quelques perles quand même, c'est vrai.
Ok, alors on va continuer du coup sur les rapports entre le secteur du doublage et celui de la traduction. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un échange, ou est-ce que c'est vraiment deux secteurs distincts et il n'y a pas vraiment de travail en commun?
Il n'y a pas vraiment de travail en commun. C'est très rare, ça m'est arrivé quelques fois, notamment avec. L'invité qui aurait dû être là, mais
Michel Pimpan, qu'on salue, qui n'a pas pu venir.
Mais je le connais très bien, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais on n'a pas vraiment ni le temps ni l'occasion de faire un vrai travail d'aller-retour. Le calendrier est tel qu'on n'a pas le temps, quoi.
Donc il y a très rarement des retours sur les textes en disant bon là il y a peut-être une imprécision, quelque chose qu'il faut...
Alors on se téléphone quand ça arrive, on se téléphone, on est en studio, alors est-ce que tu crois que machin, ou est-ce qu'on n'a pas compris le sens de telle ou telle phrase? Mais non, c'est extrêmement rare, on peut pas se dire bah tiens, ça a pu arriver qu'on se dise on va essayer de donner, il y a eu quelques tentatives de fait, pour essayer de se dire ok, on fait des pre-production meetings, et on se dit, ok, on va essayer de donner tel ton, mais c'est très rare qu'on soit consulté, parce que quand eux commencent la traduction, ils ne savent pas forcément qui va diriger, et encore moins quels sont les comédiens qui vont être pris. Donc il y a rien, on n'a pas le calendrier marketing de la production, etc., fait qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de faire du travail en amont.
D'accord.
Du tout. Donc eux font leur travail, ils nous le livrent, on s'est décidé.
Et vous reprenez.
Et on reprend derrière, et on fait au mieux.
Dans le doublage, il y a aussi le travail de directeur artistique. Tu l'as légèrement évoqué il y a un instant. Est-ce qu'on peut, pour les auditeurs, préciser un peu de quoi il s'agit?
Le directeur artistique, dans le cadre d'un jeu vidéo, prend les éléments qu'on lui donne, qui peuvent être très à jour, dans le meilleur des cas, mais qui est assez rare. Soit, moi j'ai des fois travaillé avec des visuels de personnages qui dataient des premiers développements, donc genre 2 ou 3 ans avant, et donc tu choisis un acteur, tu fais ton casting, et puis tu te rends compte que finalement le personnage final dans le jeu n'a plus grand chose à voir avec le visuel qu'on t'avait donné. Donc tu prends les éléments qu'on te donne, si c'est un jeu qui existe, t'essayes au maximum, mais encore une fois la fenêtre de tir est souvent très faible. De te familiariser avec le jeu d'avant, de voir les vidéos, de regarder les vidéos, si possible de jouer, si on en a la possibilité. Donc de se faire une idée de ce que va être le jeu quand on nous fournit le synopsis, quand on nous fournit des fois le texte en anglais avant, ce qui permet de le voir, etc., de savoir de quoi ça parle, quel va être le type de personnage, le type d'interaction, le type de séquence, et puis de faire, on choisit qui vont être les comédiens, et puis on les dirige en studio.
D'accord, donc de voir aussi d'où part le jeu et où il arrive, idéalement pour mieux choisir ses personnages.
Absolument, et d'essayer de lui donner une vraie couleur et un vrai point de vue. Moi, je sais que j'essaie d'avoir un vrai point de vue, j'essaie dans mes distributions de vraiment différencier les voix, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir quatre personnages qui parlent et d'avoir l'impression qu'ils ont tous la même voix, ce qui arrive parfois. Donc j'aime on n'est pas encore... Comment dire ? Je trouve qu'on a... On a une sorte on a de la place qui permet de vraiment caractériser, je trouve, les personnages très très fort. Je trouve que la voix dans un jeu vidéo donne vraiment le caractère du personnage, un peu comme dans le dessin animé, plus que dans une série ou un film 35 par exemple avec de vrais acteurs. Et je trouve que c'est un truc, je trouve que c'est en tant que joueur, je trouve que c'est très très important d'avoir des voix très définies où on comprend directement où ils veulent en venir, ce qu'ils font, leurs intentions, etc. Je trouve que c'est très très important encore à l'heure actuelle. Après, on verra si plus tard, dans quelques années, on a des jeux vraiment subtils, de finesse, d'intention, etc. Mais c'est pas encore forcément ce qui se passe. Tout dépend. Dans certaines cinématiques, ça arrive.
On n'est pas encore au sommet de là où on pourrait être, justement, avec la présence des acteurs dans le jeu vidéo de manière générale, parce qu'on a vu, par exemple, dans un Call of Duty tout récent, Kevin Spacey jouer un personnage, alors pour la version anglaise, évidemment, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le domaine, simplement ? Est-ce qu'on peut prendre encore est-ce qu'on peut penser prendre de meilleurs acteurs, d'encore plus grands noms ?
Bien sûr, ça se fait. Bien sûr.
Ça coûte beaucoup plus cher et c'est peut-être une question de budget ?
Mais ça, c'est au niveau de l'original, tu vois. C'est au niveau de l'original.
Ça s'imagine pas pour le niveau du français, pour le coup, de simplement.
Là, je suis quasiment sûr. Par exemple, c'est vrai que j'ai vu des images de Kevin Spacey dans le Call of Duty. Mm-hmm. Je pense, je l'ai pas suivi. Moi, j'ai dirigé tous les premiers Call of Duty, mais je ne les ai plus dirigés depuis quelques temps. Même si j'ai participé quasiment à tous. Je pense qu'ils auront pris son doubleur officiel, qui est Gabriel Ledose. Et je pense que ça va être très très bien, parce que Gabriel est très 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 bien. Mais ils font quelques tentatives, notamment Call of Duty est une licence où ils ont invité quelques stars. Il y a eu Virginie Ledoyen, il y a eu cet acteur français, je sais plus, dont le nom m'échappe, qui en fait, il y a 2-3 ans, ils ont fait...
En tout cas, voilà, il y a quand même des noms qui arrivent, même si c'est pas généralisé, ça vient quand même sur les gros budgets, sur les...
Ça vient parfois, et c'est vraiment une volonté marketing. En revanche, au niveau, encore une fois, du planning, c'est quelque chose qui est très difficile à organiser. Je me rappelle avoir fait, quand j'avais débuté un jeu qui s'appelait Westerner, et ils avaient envie d'avoir quelqu'un de connu, et je crois qu'ils avaient évoqué Franck Dubosc. Qui a répondu, 6 mois après la sortie du jeu. Donc voilà, donc c'est pas
la même culture.
C'est pas évident, voilà.
C'est peut-être encore un peu mal vu pour ces comédiens, le jeu vidéo, c'est peut-être encore trop, je sais pas assez...
À l'époque, peut-être, oui, maintenant, ils sont en train de se rendre compte que, je pense que maintenant, tout le monde est au courant des fameux chiffres qui disent que, voilà, le jeu vidéo rapporte plus d'argent dans le monde que le cinéma, donc...
Mais c'est vrai qu'en France, on met relativement peu l'accent sur les doubleurs, mais je me souviens du dernier Lara Croft, en fait. Enfin, du dernier. L'avant-dernier, la doubleuse, qui était donc l'actrice, dont j'ai oublié le nom, malheureusement,
Alice
qui jouait dans
quelque chose, non?
Voilà, Alice, il me semble. Pas Sapritch, non?
Non, absolument pas.
mais je me souviens que la com avait été largement mise sur
Alice
elle.
David. Alice David.
Voilà, exactement. Mais sinon, c'est vrai qu'on entend relativement peu parler des doubleurs français. Alice David qui a remplacé d'ailleurs une excellente doubleuse qui était l'ancienne doubleuse de Lara Croft, Françoise Cadol.
Françoise Cadol, absolument. J'en ai dirigé un de Tomb Raider.
Enfin, j'adorais cette.
Ça ressemble beaucoup à une décision marketing pour le coup, effectivement.
Oui. Mais en même temps,
bien sûr.
Changement de personnage plus jeune.
On va le mettre sur la boîte, on va mettre un petit autocollant avec la voix de. Comme ça se passe aussi d'ailleurs pour les films d'animation, entre parenthèses.
Absolument, ce sont purement des décisions marketing.
Ah, voilà, exactement. Bob l'éponge avec Squeezie et
Cyprien. Voilà. Cette fois-ci, c'est le pseudo jeu vidéo qui s'invite dans le doublage d'autre chose. Mais oui.
Ah oui, ils n'ont pas repris la voix habituelle de Bob l'éponge pour le
Apparemment
film.
Apparemment pas. En tout cas, j'ai vu que ça contenait ces voix-là. Je ne sais pas quel personnage il joue parce que personnellement. Même si j'irai le voir, j'irai peut-être le voir en anglais plutôt qu'en français. Bref.
Est-ce que tu essaies de faire passer un message par là?
Non, pas précisément.
D'accord. Mais...
Vous savez, je vais vous dire une anecdote. La plupart des comédiens de doublage regardent des VO, ils ne regardent pas des VF. Ah, déjà, t'as l'impression d'être au boulot.
Ça m'étonne pas.
Non, mais tu passes pas. On est des acteurs à la base. On est des bien acteurs, sûr. Donc ce qu'on veut, c'est le jeu original de l'acteur. Mm. Ensuite, t'as l'impression d'être au boulot. Tu passes ton temps à te dire, ok, ah oui, c'est un tel, ah, c'est Laura, ah, c'est Franck, ah, c'est machin.
Ouais, ça va être bizarre, t'entends tous tes collègues qui disent, oh là là, mais dis donc.
Et du coup, vous avez beaucoup de retours de la part des éditeurs, des développeurs, que ce soit des studios ou du marketing, sur justement les voix qui ont été fournies?
On n'a pas vraiment de retour.
D'accord, c'est simplement.
Pas vraiment de retour. Ils sont contents du boulot ou ils sont pas contents du boulot.
J'ai pu lire les fichiers Wave sur ma machine, ça fonctionnait très bien, merci.
Non, c'est pas à ce point-là. Non, c'est pas à ce point-là. Ils ont des tests, des qualités, de qualité, etc. Il y a des, comment ça s'appelle, Q&A, je ne sais
des
pas. Quoi,
des Q&A,
voilà.
Quality Assurance, exactement.
Voilà, des QA. Exact. Donc, bien sûr, ça revient. Et bien sûr, on se fait allumer s'ils considèrent que c'est pas bien, etc. Bon, ça ne m'est pas arrivé beaucoup, donc tout va bien.
Mais. On a choisi le meilleur aujourd'hui. Hein.
Mais absolument.
Oui. En tant que directeur artistique, j'imagine qu'il y a quand même un certain degré de liberté finalement par rapport à l'œuvre originale, même s'il y a des rails évidemment.
Absolument, absolument. Moi, je m'autorise des. Comment dire? Je considère que je suis le maître à bord et je décide. Ok, je pense que ce jeu devrait avoir telle couleur, telle vision. Enfin, j'ai ma vision de ce jeu et c'est ça qui ira le mieux. C'est ça qui mettra le plus en valeur le jeu. Par exemple, un jeu sur la guerre du Vietnam qui s'appelait Shell Shock, si mes souvenirs sont bons. Le vétéran, le héros qui était un vétéran avait 22 ans.
C'est jeune pour un vétéran.
En Amérique.
Oui, voilà.
Non, mais bien sûr, mais le gars est arrivé à 18 ans, ça faisait 4 ans qu'il était au Vietnam, oui, c'est un vétéran, il avait survécu, il avait vu partir par le Sébot, donc c'est un vétéran du Vietnam. Mais toujours est-il qu'il a quand même 22 ans. Et donc, quand les Américains mettent une grosse voix d'un mec de 45 ans, la voix du héros habituel, je fais...
Il y a un léger problème de cohérence, voilà. Ouais.
Donc moi, je m'autorise à mettre une voix d'un mec de 22 ans.
Ah ouais, donc quand même, vous pouvez prendre des libertés assez larges par rapport...
Oui, tout dépend de la liberté que nous laisse l'éditeur ou le marketing, ou ça, des fois, demande, voilà...
C'est plus souvent sur le choix des acteurs, sur le texte c'est
non, le texte,
le texte c'est vraiment le bloqué
texte,
sur...
Non, le texte n'est pas bloqué toujours dans le bon. Ça arrive que le texte soit bloqué. On ne veut pas qu'on change une virgule. Mais bon, des fois, il faut...
Si on se rend compte qu'à l'oral, ça passe mal... J'imagine.
Qu'à l'oral ça passe mal ou qu'il y a eu quelques fois des problèmes de sens, parce que encore une fois c'est un média très difficile à appréhender au niveau de la production. Donc même au niveau des traducteurs, pour vous imaginez que pour un Call of Duty ou des grosses licences comme Assassin's, vous pouvez pas faire ça, on vous demande des délais, il y a pas un traducteur qui fait tout, donc il y a plusieurs traducteurs, donc il est possible que parfois il y ait tout ça est relu, ce sont des processus très spécialisés, extrêmement rodés, avec un très très haut niveau de qualité de la part des sociétés qui le font, mais il peut arriver que de temps en temps il y ait des petites incohérences au niveau du sens, qu'une réplique ne répond pas tout à fait exactement à l'autre parce qu'elle a été traduite d'un personnage à l'autre par deux personnes différentes. Donc voilà, donc ça on s'autorise et quand même pour le bien-être du jeu,
bien sûr,
à ce que ça se réponde correctement, même si on a eu des instructions précises de ne surtout pas changer le texte.
On l'avait aussi effleuré il y a quelques instants. Comment est-ce qu'on s'organise quand on est directeur artistique, qu'on arrive sur une série et qu'on n'a pas justement, on s'est pas occupé de la direction artistique des jeux précédents? On va changer le cast, on va essayer de le retrouver.
Tout dépend de la liberté qu'on a ou pas.
Ça dépend.
A priori,
de ça.
On change
possible,
pas le cast.
C'est possible du coup de.
C'est rare, c'est rare. A priori, si vous reprenez une série et que les acteurs ont été bookés, alors ça peut poser des problèmes parce que comment dire, on parle de direction artistique, donc de point de vue.
Oui.
Donc je pourrais. Dans l'absolu, ne pas être d'accord avec la précédente distribution. Mais voilà, on fait au mieux.
C'est ça qui est intéressant justement, c'est que c'est la dimension artistique dans cette grosse machine qui comprend le marketing, qui comprend ces mois et ces mois de développement, ces gens qui travaillent d'arrache-pied, voire plus, justement pendant des heures derrière. Donc c'est vrai que c'est une question très importante. Toujours dans ce cas théorique, donc on arrive dans
mais
une
série... Mais donc ça arrive, pour répondre, finir de répondre clairement à ta question, c'est rare qu'on ait la liberté de changer. A priori, si les personnages reviennent, on garde les mêmes acteurs.
D'accord. Voilà. Très bien. Et pour le coup, on arrive donc sur une série qui est déjà en cours. On va jouer au jeu précédent. On va.
Si on a le temps.
Si on a le temps.
Si on a le temps. D'accord. Je peux te dire que quand j'ai commencé à diriger, donc en 2003, j'avais plus le temps que maintenant.
Mais pour le coup, il y a peut-être des solutions alternatives. Il y a peut-être des ressources qui traînent, réécouter des pistes.
Heureusement, maintenant il y a YouTube qui est arrivé entre temps.
C'est une solution.
Voilà, et il y a pas mal de comment ça s'appelle, les mecs qui jouent
des let's play.
Oui, par exemple, voilà, par exemple, ce genre de choses, donc ça permet de se familiariser, ouais.
Tout à fait, très bien.
Et concernant par exemple les jeux tirés de certains films ou certaines séries, est-ce que c'est compliqué de retrouver les acteurs originaux en fait des films ?
Absolument, parce que souvent on fait le jeu, on enregistre le jeu vidéo avant même que le film n'ait été doublé.
Ah oui.
Donc en fait, on ne peut pas assurer une cohérence forcément.
Mais ça doit arriver quand même qu'on arrive à avoir les mêmes voix dans le.
Ça arrive.
Mais c'est compliqué.
Ouais. Pas forcément. C'est que des négociations.
D'accord.
C'est que de la négociation marketing. Soit ou de la volonté du client. Voilà, le client décide. Le client qui veut par exemple, là c'est purement financier, mais le client qui veut avoir les mêmes voix que dans son film va devoir monnayer ça. Après, est-ce que le client considère que le budget qu'il a à allouer à son jeu en vaut la peine ou pas? Non. Oui ou voilà, va entraîner sa décision. Mmh. C'est purement des choix marketing en fait. D'accord. Là pour le coup, pas artistique.
De manière générale, alors ça peut toucher le jeu vidéo, ça peut aussi toucher le reste. Comment, en quelle santé est le doublage en 2015? Est-ce qu'il est plutôt en essor? Est-ce qu'on a tendance à faire plus de doublage et à s'y intéresser un peu plus? Ou est-ce qu'au contraire, il est en repli?
Il me semble que c'est en essor, ne serait-ce que parce qu'il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de séries qui sortent, etc. Et oui, je pense que c'est en essor.
Pour le coup, Alès, je t'en prie.
Oui, alors, quelle est une question un peu plus personnelle. Quel est le jeu ou le personnage sur lequel tu as préféré travailler et pourquoi?
En tant que, on
peut faire les deux déjà.
Allez, déjà, en tant que comédien de doublage déjà.
En tant que comédien, je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que franchement, parce que c'est quelque chose qui est pas encore sorti. C'est un vrai. Je viens d'interpréter un vrai psychopathe.
Oh,
sublime psychopathe pour un jeu. Très dark.
Le jeu est annoncé ou pas? Même pas, t'imagines?
Je pense.
Il est en cours de doublage, mais il est pas annoncé.
Non, c'est une grosse licence et bon, vous savez, on a des NDA, on signe des NDA avec nos contrats, donc
forcément.
On ne peut pas en parler. Franchement, superbe kiff. Voilà. Là, j'espère que ça rendra bien. Je fais un sublime psychopathe.
Lancez les paris en commentaire sur le podcast.
Bien sûr.
Une petite récompense pour celui qui trouve.
Et puis en tant que directeur artistique, si vous pouvez dire.
Ah oui, bien sûr. En tant que directeur artistique, le premier mot qui me vient, le premier jeu qui me vient, c'est BioShock. Le premier BioShock parce que j'ai eu, c'était très rapide. C'était une époque où on travaillait énormément. J'étais en studio du matin au soir. Le studio. D'une Sound, pour ne pas le citer, où je travaillais, n'avait pas le temps de faire ce jeu. Mm-hmm. J'ai écouté les éléments, on nous a dit, voilà, il y a ce jeu qui arrive, c'est dommage, il est bien et tout, mais on ne va pas avoir le temps de le faire. J'ai écouté les éléments, donc je ne savais pas du tout ce qu'était BioShock. J'ai regardé les visuels, j'ai entendu l'univers sonore de BioShock et j'ai fait, accepte, on va le faire. On va le faire de 20h à minuit, mais on va le faire. Et on l'a fait, du coup j'ai eu une liberté totale, comme quoi quand on est carte blanche, ça donne de bons résultats et voilà, j'ai fait le casting que je voulais, j'ai pris les gens que je voulais et on l'a fait, grosso modo on l'a enregistré la nuit, on a fait nous-mêmes des retakes quand on s'est rendu compte de certaines incohérences pour que ça tienne la route et voilà, ça c'est un des grands souvenirs, les BioShock 1 et 2.
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la VF de BioShock,
elle est très très chouette. Elle est très très chouette. Et puis, je veux dire, justement, ça rentre dans le jeu. Je sais pas si c'est lié aussi au fait que en termes artistiques, justement, BioShock était quelque chose de très poussé dès le premier épisode.
Absolument.
Malgré tout, avec beaucoup d'excellentes idées qui étaient poussées dans le jeu, un propos politique. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses qui, du coup, le font ressortir de toute la masse des jeux qui sont sortis sur la fin des années 2000.
Et un design sonore. Exceptionnel.
Aussi, alors.
Exceptionnel.
De ce côté-là aussi, puisqu'on parlait de studio, vous n'êtes pas non plus en lien dans le domaine du doublage avec le domaine du design sonore ou
Ça peut arriver très rarement, mais moi ça ne me concerne pas parce que je suis pas du son.
Bien sûr.
Réellement.
Mais ça peut arriver
que parfois un studio s'occupe lui-même du design. Ça peut arriver, ça a pu arriver.
C'est ça qui est intéressant.
C'est très rare.
C'est que, mine de rien, dans certaines œuvres, on peut simplement avoir du chant, un personnage qui peut chanter, un personnage qui peut,
Comme ce fameux psychopathe.
Et ben voilà. Comment il nous tease.
Exactement.
Mais, pour le coup, comment ça se passe? Est-ce qu'on privilégie la version originale? Est-ce qu'on va privilégier, essayer de tenter de le chanter, alors, de voir si ça passe?
Oui, bien sûr, parce que soit il y a des mots qui sont qui sont dedans. Donc forcément, on est obligé d'avoir les mots en français. Mm-hmm. Mais surtout, c'est des problèmes de timbre.
Effectivement, si ça...
Voilà, il faut que le timbre accorde. Des fois, quand ça arrive, on peut avoir... une phrase parlée et puis tout d'un coup qui se met à chanter, voilà. Donc on est obligé d'avoir le même. On est obligé de tout refaire. Vous savez, quand on fait Call of Duty, et j'en ai bouffé du Call of Duty, tous les cris on les refait. Pourtant normalement on n'est pas censé les refaire, mais enfin je veux dire on ne serait dans l'absolu pas obligé. Hein. Quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui meurt qui fait ah, voilà. Mais on est obligé de les refaire pour des problèmes de son. Il faut que le son soit cohérent. Et qu'il n'y ait pas de différence, parce que des problèmes de son, d'enregistrement, ça change au niveau du mix final, etc. Donc on refait tout. Moi, j'ai cassé la voix de tous les comédiens de doublage parisiens pendant des années sur les Call of Duty. Et on est obligé de refaire des choses qui... Enfin, c'est un peu le même problème que le chant, tu vois. Oui, on refait tout à la bouche.
Vous êtes aussi un peu... embêté par le marketing, ils vous poussent, etc. Est-ce que ça vous arrive de bosser avec eux, et spécifiquement sur les publicités, par exemple les publicités télé? Je me souviens de certains jeux vidéo qui avaient des publicités télé où c'était directement des personnages qui parlaient, qui n'étaient pas dans l'univers du jeu, entre guillemets. Est-ce que ça arrive d'être contacté de nouveau pour faire une voix dans la publicité télé, ou est-ce que c'est d'autres agences, d'autres studios, c'est
ça d'autres arrive médias? Souvent que ce soit d'autres agences. Il y a tous les cas sont possibles, en fait. Ça m'est arrivé d'être contacté directement parce que j'avais fait la voix Gang de requins, par exemple, sur une des plateformes, je ne sais plus laquelle, j'avais fait la voix du personnage principal. D'accord. Du coup, il m'avait appelé pour faire la pub. Et j'avais aussi fait la voix off, etc.
Ouais.
Récemment, qu'est-ce qu'il y a eu pour Watch Dogs? Oui, ça peut arriver que Watch Dogs, on a fait, par exemple, les bandes annonces.
Mais voilà, les bandes annonces, les trailers, effectivement.
Voilà, mais parfois, ça passe par d'autres agences, d'autres gens. Voilà, il y a, les deux cas sont possibles.
C'est aussi pour ça qu'en guise de voix, parfois, on a juste des énormes mots qui s'affichent à l'écran, histoire de meubler un petit peu, et de faire une narration malgré tout. Effectivement. D'ailleurs, là-dessus, en ce qui concerne les différents supports, ça peut arriver de doubler un jeu qui va sortir, par exemple, sur PC et console, et de ne faire que la version PC ou que la version console. Ou est-ce que c'est souvent la même chose? Parce que là, sur Gang de requins, par exemple, spécifiquement, apparemment, il y a une version sur laquelle...
Oui, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus ce qui s'est passé à l'époque. Mm-hmm. Je sais que quelqu'un avait fait la version PS, je crois, et moi, j'avais fait la version PC, ou le contraire. Mm. Je crois que j'avais fait la version PC. Mais je ne sais plus pourquoi. Alors, je ne peux pas dire a priori, non. A priori, maintenant, tout est cohérent. Et ça peut arriver qu'il y ait... Alors, bien sûr, il y a des différences, puisque tu ne dis pas forcément la même chose, notamment dans les tutoriaux. Mmh. Tu ne dis pas la même chose, tu dis appuyer sur tel truc, ou voilà. Mais non, grosso modo, c'est toujours les mêmes versions.
Est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu n'as pas travaillé et que tu aurais voulu travailler?
Justement, pour revenir sur l'expérience de joueur, un peu, qui peut émerger.
Oui, c'est vrai.
Non.
Non, c'est vrai. Il n'y a aucun...
Non, j'ai pas de regrets, en fait. J'ai pas de regrets, j'ai fait des super trucs. Non, je me dis pas, tiens, j'aurais voulu faire... Il me semble qu'il y en a un dans ma mémoire. Donc, qu'est-ce que j'aurais voulu faire?
Pong.
Doubler les balles.
Mario, j'adorerais faire Mario.
It's a go! Pour le coup, ils veulent pas le traduire. Même au Japon, il est en anglais, donc.
Si Charles Martinet arrête, peut-être qu'il y a une place à prendre, on sait jamais.
Hein. Effectivement. On parlait des studios parisiens aussi il y a un instant. Pour le coup, en France, de manière générale, ça représente beaucoup de studios, beaucoup de monde.
Non, c'est vraiment une niche. C'est une très très petite niche. À Paris, il y a 5 studios spécialisés principalement là-dedans, c'est tout.
D'accord. Très bien.
C'est tout. Il y en a un peu à Lyon. Puisque Electronic Arts c'est là-bas, etc. Donc ils font pas mal de VF là-bas, mais c'est quasiment tout. Non, c'est vraiment le jeu vidéo, le doublage de jeux vidéo est vraiment une petite niche très 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 spécialisée. Il y a quelque temps, une grosse société de doublage m'avait contacté dans le cadre de s'essayer aux jeux vidéo en disant voilà, il y a un marché à prendre, etc. C'est tellement spécialisé, c'est tellement compliqué, comment dire. Imaginez, vous devez doubler un jeu qui est toujours en cours de développement. Donc ça sous-entend toutes les mises à jour régulières. Donc de la part du studio, c'est vraiment le mode de production d'une version française de jeu vidéo est extrêmement ardu, compliqué et très 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 spécialisé.
Et du coup, ça me fait penser comment ça se passe quand il y a du DLC par exemple dans des jeux. Est-ce qu'il faut faire revenir toute l'équipe?
Bien sûr, on fait revenir tout le monde, ça c'est normal.
On reste en contrat avec eux ou c'est simplement entre guillemets tacite et si jamais il y a du nouveau contenu, on vous recontacte?
C'est-à-dire?
Est-ce que c'est directement lié à un contrat et on est sur plusieurs années au cas où il y aurait du contenu supplémentaire qui s'échelonnerait sur
pas forcément.
Ou deux ans après la sortie.
Pas
voilà.
Forcément. Tout n'est pas forcément prévu à l'avance. Des fois, ils attendent de savoir si le jeu a marché avant
de produire du contenu supplémentaire. Ouais, voilà.
Donc
ça va être un petit peu compliqué de retrouver les mêmes voies justement parfois.
Non,
pour des questions de planning. Non, je sais pas.
Au niveau du planning, on s'arrange quand même toujours. Ouais. C'est toujours, et oui, bien sûr, tacitement, les gens reviennent faire leur rôle, puis les comédiens ont envie de bosser, ils sont contents, ils ont fait leur personnage, et ils reviennent le faire, c'est normal. C'est un peu leur prérogative, et ce serait bête. Enfin, moi, en tant que comédien, je perdrais pas un personnage. Enfin, tant que je peux, sauf si je suis pas libre, je ne ferais pas, je reviendrai faire mes personnages, absolument.
Enfin, dernière question, probablement, par rapport, on peut donc pas vraiment en vivre, malgré le fait que ce soit une industrie florissante, le jeu vidéo, de faire du doublage de jeux vidéo uniquement. Il faut se diversifier quand on est comédien.
Quand on est comédien, il vaut mieux se diversifier, oui.
Ou alors, on peut essayer de se porter peut-être justement vers la direction artistique, et là, on peut jongler, on peut rester dans le jeu vidéo et tenter de jongler.
Oui, bien sûr, mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce que, pendant très longtemps, j'ai refusé. Comme je dirigeais dans le jeu, j'ai dû refuser pas mal de choses en tant que comédien. Après, c'est un choix. C'est vrai que c'était passionnant, en fait. C'est passionnant de dire, OK, c'est moi qui ai la main mise sur la couleur que va donner l'univers sonore du jeu. Moi, en tant que gamer, je préfère jouer en VF. Alors que, comme je disais tout à l'heure, je regarde jamais de séries ou de... Donc, je préfère jouer en VF parce que ça me permet de me concentrer sur autre chose. Enfin, sur le jeu lui-même.
Alors on a un petit peu le temps, vu qu'on est à l'école multimédia, à l'aise de passer avec des questions d'auditeurs, de gens qui sont même dans le public, qui nous écoutent depuis le début. On a notre ami Zéphiriel de Comics Outcast.
Le grand perdant du Player Quiz
d'hier, effectivement.
Je me rappelle pas.
D'avant-hier.
Bonjour à tous.
Coucou.
Juste une question rapidement. En fait, j'aurais voulu savoir si par rapport au pool d'acteurs, de voix off sur le doublage, est-ce qu'il y a un pool récurrent d'acteurs qui sont là en permanence et qui reviennent le plus souvent possible ou pas?
Alors, pour des raisons historiques, en fait, oui, on peut dire que, d'ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a grosso modo un noyau dur d'une cinquantaine de personnes. Qui pendant des années ont fait quasiment tous les jeux. Alors pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que très vite on s'est rendu compte que c'était une spécificité d'enregistrer un jeu vidéo et que certains y arrivaient mieux que d'autres du fait de ces problèmes techniques de manque d'informations. Même si c'est en train de s'ouvrir, c'est vrai que ce noyau dur qui est là depuis 15 ans et continue toujours à être présent dans la plupart des jeux que vous entendez. Oui, absolument. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment... c'est pas un manque de d'imagination ou de... Enfin, de paresse. C'est vraiment qualitativement une force. Parce que moi qui ai fait partie des premiers, donc je peux vous dire qu'on... On en a fait des erreurs.
C'est plus la présence d'un savoir-faire, d'une synergie, justement, de gens qui connaissent les problèmes du domaine.
D'un média émergent. Mmh. Et ok, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Et on est quelques-uns à avoir été à la fois comédien, à la fois DA et à la fois gamer. Ce qui, moi, me permettait de me rendre compte, au début, avant que je dirige, je me rendais déjà bien compte que ce qu'on faisait en studio ne collait pas dans le jeu final. Et en tant que DA, j'ai voulu pallier à ces problèmes et trouver les techniques et les manières de travailler qui faisaient que on arrive à faire quelque chose de cohérent ou que ça se réponde bien, etc. Et non, mais ça explique, voilà, on s'est beaucoup trompé. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que comédien. J'ai fait des choses que je considérerais comme abominables maintenant, en me disant, mais oui, mais bien sûr, je me suis fait avoir par la musique de l'anglais, et du coup, j'ai pas, voilà, des choses comme ça. Et maintenant, on est peut-être à une 300aine, je sais pas si ça se dit 300aine, mais
on l'accepte, on l'accepte.
Oui, voilà, on va.
Ça passe bien. Je crois que voilà. Zéphiriel voulait relancer.
Oui, alors juste une question, là, c'est peut-être plus personnel. Juste à quoi vous jouez en ce moment? J'aime bien cette question, vous jouez. Hein.
Oui.
Je ne peux pas le dire.
Si, je peux dire à quoi j'ai joué. On a pris, on avait passé beaucoup de temps avec ma fille sur Little Big Planet. Et là, je viens de prendre le 3, un peu en retard, mais j'ai pris le 3, donc j'ai fait un perso aussi d'ailleurs.
Tant qu'à parler de voix d'ailleurs, sur le 3, au niveau de la VO, c'est Hugh Laurie et Stephen Fry qui font des voix dedans. Stephen Fry qui continue de faire le narrateur et Hugh Laurie qui apparemment apparaît dans le 3 pour fan voix. J'étais personnellement assez heureux de voir justement ce duo comique. Anglais réapparaître, bien sûr, dans le jeu. Aussi, bah, du coup, comment dire, on est tous habitués, même nous, quand on fait de la radio, on est habitués parfois à faire des choses un peu dans la précipitation, à pallier à des petits soucis comme ça. Dans ce domaine-là aussi, il y a des choses qui se passent très très vite, qui se font entre deux portes.
Et ben, par exemple, je me rappelle d'un jeu, que je ne citerai donc pas, où à 22h, alors qu'il fallait rendre les fichiers genre à minuit ou le lendemain matin à 9h, il manquait une femme et qui n'avait un très très petit rôle, mais pour des raisons diverses et variées, il nous manquait cette femme. Je pouvais pas rappeler de femme tout de suite, donc j'ai fait une femme. J'ai fait une femme, mais avec la magie de la technique,
pitchant
on
un peu
a
la voix,
pitché absolument. J'ai joué d'une certaine manière que je ne vous ferai pas ici.
Pour qu'une fois pitché.
Et on a pitché. Ouais. Et franchement, j'étais le premier surpris à quel point
c'est facile de
ça fonctionnait. Non, c'est pas facile, mais ça fonctionnait. Ce qui arrive souvent aussi, c'est de reprendre en cours de route soit une ou deux phrases d'un perso. Donc j'ai fait aussi des petites filles. mais genre sur un demi-mot ou sur une demi-phrase. Ou des fois, vous avez un copain qui est parti... qui est à l'autre bout de Paris, il faut faire une demi-phrase parce qu'il s'est trompé d'un mot. Eh ben, on essaye de limiter un maximum. Et au milieu d'un mot, on rechange. Est-ce que c'est un problème de temps, par exemple, une concordance des temps? Voilà, on le fait au milieu de la phrase. C'est un peu balèze, c'est un peu technique, mais j'ai fait pas mal de potes comme ça.
Ça me rappelle tellement les doublages des séries animées par AB dans les années 80 où t'avais les voix qui...
Merci de la comparaison, j'en reviens là.
L'idée, tu vois, t'as un pote qui est là-bas et tout, je travaille chez AB, donc attention, ne disons non plus pas trop de mal.
Moi je fais des documentaires chez AB, écoute, régulièrement. Mais c'est vrai que... Non, rien.
Non, très bien. Je regarde en face. Est-ce qu'il y a dans le public encore peut-être un mot? Oui, à une question. Du coup, si Aspic, tu peux lui passer le petit micro volant. Allons-y.
Oui. Non, je me demandais juste par rapport à des jeux tels que The Elder Scrolls ou Fallout où il y a beaucoup de personnages secondaires. Ils sont tous doublés. Comment on peut s'en sortir, par exemple, en ayant une centaine de personnages avec un nombre de voix assez limité?
Beaucoup d'accent marseillais. Non.
Surtout pas. Surtout pas. Il y a un exemple célèbre dans l'accent du Sud.
Oui.
On s'en souvient tous. On y pense tous.
Oui, c'est à ça que je pensais tout à l'heure. Et là, voilà, je ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est un mystère. Ça, par exemple, c'est cet exemple précis où les initiés sauront de quoi nous parlons. Mm-hmm. Je ne sais pas, par exemple. C'est un mystère total. Je ne sais pas qui a pu se dire, on va faire...
Ce serait une bonne idée.
On va lui mettre un accent toulousain.
Mais je crois que c'est parce que dans le jeu original, il avait un accent du Kanto.
Il a absolument, absolument. C'est un accent du Sud. Donc voilà, c'est incompréhensible. Pourquoi mais pour répondre à ta question, comment on fait? Ben, c'est une demande du client de dire voilà, dans la VF, je voudrais qu'il n'y ait que autant d'acteurs. C'est aussi des contingences budgétaires. Mais je sais que tu parlais d'Elder Scrolls, dans Skyrim, moi, on m'a donné les Nordiques.
D'accord, voilà. Donc on donne juste.
Les Nordiques, c'est moi.
D'accord. Ah oui,
pourquoi pas. Voilà.
Donc ça fait plein de persos. Alors ça fait le Nordique qui est chef du village, ça fait le Nordique qui est guerrier, ça fait le Nordique qui est cela. Après, je n'y ai pas joué. Je ne sais pas comment ça rend, je ne sais pas si ça fonctionne, si ça marche, etc.
Alors notre réalisateur Aspic a une question.
Oui, bah, qui est directement liée. J'ai vu que vous avez fait des voix pour World of Warcraft. J'ai passé trop de temps, hélas. Est-ce que vous avez des souvenirs de quelle voix vous avez fait dedans?
Aucun. Plus du tout. En fait, on arrive en studio, on dit, voilà, c'est pour tel truc, tu le fais.
C'était il y a 12
Moi,
ans.
Moi, je sais, parce que j'ai des amis qui ont joué, qui m'ont dit, c'était les, il y en a pas avec des accents russes?
Ah, les nains?
Non. Les j'ai un ami qui pourrait me dire, qui me dit, parce qu'il m'en a parlé,
les Draenei, d'accord.
Draenei. Okay. C'est ça,
ouais.
Ça fait sens. Bah voilà, c'est une belle rencontre. Des années de jeu. Et du coup, quand tu joues, est-ce que des fois tu tombes sur ta propre voix? Comment ça te fait?
Parce que tu joues en français, du coup.
Oui, je joue en français. Oui, des fois, je tombe sur moi. Oui.
Ça te fait quoi? C'est pas bizarre.
Comme quand on regarde un film avec soi schizophrénie.
Oui, non, c'est pas schizophrène. En fait, je me juge en tant que travail. C'est-à-dire, je me dis, ah chouette, ah c'est cool, ça rend bien. Ou bien, oh my God, comment est-ce que j'ai pu faire ça?
Oui, donc t'arrives pas en fait finalement à avoir de recul vraiment. Enfin, tu restes dans le. Enfin, tu peux pas t'immerger en fait. Tu penses.
Ah non, clairement. Ah non, clairement. Ah oui, quand je m'entends, oui, bien sûr.
En même temps, quand je réécoute une émission, c'est pareil.
Oui, c'est pareil. C'est ça.
Je me dis,
moi, je le fais pas parce que. Mais justement, c'est parce que moi, je le fais pas parce que j'aime pas me réentendre justement. Donc je me dis, imagine si j'avais ma voix dans les jeux vidéo. Enfin, t'imagines, je pourrais plus jouer du tout. L'horreur.
Déjà maintenant que tu peux mettre ta tête dans un jeu, bientôt mettre ta voix.
Oui, mais justement, je le fais pas.
Qui sait?
Non, mais moi, j'essaie de pas trop avoir de langue de bois, mais par exemple je me rappelle d'une phrase dans un Dragon Age, je ne sais plus lequel, je me suis entendu et je fais mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça? Et j'ai dû le faire comme ça parce que j'ai fait ce que j'ai compris de ce que j'avais entendu de l'acteur original. Or il se trouve que c'était pas ça du tout.
Et là de rage tu tues le PNJ, tu sais.
Non, mais il y a des fois on fait quand on est dans vu le peu d'éléments qu'on a, des fois on fait des erreurs d'interprétation de ce qui devrait être fait. Je me rappelle le premier Call of Duty, débarquement de Stalingrad. Je n'avais que l'audio et j'entends cette espèce d'orateur russe qui parle à la foule. Enfin, je l'interprète comme ça et donc je dis au comédien, tu vas interpréter. Voilà, le premier prend un fusil, quand le premier se fait tuer, le deuxième ramasse le fusil. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Et en fait, pour moi, je me dis, voilà, comme je l'entends, c'est un orateur, j'avais aucune info, il est face à une foule. Et puis après, j'ai vu, en fait, c'est le mec, il est dans le bateau, ou il est, il est dans le bateau, et il tire sur les mecs qui se jetaient dans l'eau. Et je dis, bon, comment ça va, c'est pas trop de dégâts, ça marche plus ou moins. Mais c'est pas tout à fait ce que j'aurais dû faire si j'avais été au courant de la vraie situation. C'est-à-dire que plus on a d'infos dans un jeu, message pour les éditeurs, plus on a d'infos pour travailler, parce qu'on est quand même là pour le bien du jeu au final. Mm-hmm. Plus on a d'infos, meilleur on sera. Plus pertinent on sera. Plus on sera vraiment en adéquation, plus la voix qu'on essaie de faire sera en adéquation avec la scène. On a tous joué avec des jeux où tout d'un coup ça arrive... la mayonnaise prend pas en fait, les voix sont à part, etc. Et c'est moi que j'essaie d'éviter un maximum, qu'on soit vraiment immergé, que la séquence tienne la route, que ça se réponde bien, parce qu'il faut savoir qu'on enregistre chacun de notre côté. En doublage, on est ensemble, on est 5-6, si on est 5-6 dans la scène, là on est chacun dans son coin, donc c'est au rôle du DA de faire que ça se réponde super bien, alors qu'on a enregistré la moitié gauche du dialogue 15 jours avant, avec quelqu'un d'autre.
T'as une dernière question? Vas-y, ouais, je t'en prie.
Dernière question de méga fanboy que j'aimerais bien poser, je vous prie, si vous avez la référence.
Oui, absolument.
Ah. Merci.
Absolument, bien, très bien.
En gros, c'est comment on devient comédien de doublage de jeux vidéo?
Alors, Ça, c'est une grande question que beaucoup de gens se posent. Si vous êtes poissonnier, je n'ai rien contre les poissonniers. Si vous êtes boulanger,
c'est une grosse voix, les poissonniers.
On vous a dit, vous avez une super voix, tu devrais faire du doublage. Tous ces métiers de la voix, que ce soit pour faire de la pub, que ce soit pour faire du documentaire, que ce soit pour faire du doublage, et encore plus pour faire du jeu vidéo, puisque c'est ce qu'il y a de plus exigeant, il faut d'abord, avant tout, être comédien. C'est un travail, c'est une branche du travail de comédien. Sincèrement, j'ai vu passer des centaines de comédiens derrière la vitre, et j'ai vu la différence entre ceux qui venaient du théâtre et ceux qui n'en venaient pas, qui étaient venus, entre guillemets, dans la voix parce qu'ils avaient vu une belle voix. Parce qu'ils avaient une belle voix. Et ce qui était le cas, hein, encore une fois, j'ai énormément d'anecdotes. J'ai vu des gens dont j'étais sublimement fan parce qu'ils avaient une voix magnifique, mais qui faisaient beaucoup de pubs et qui n'étaient pas capables de faire un jeu vidéo. C'est très très particulier. Et donc je disais, j'ai vu la différence entre un comédien qui n'avait pas d'expérience de théâtre et un qui a une expérience de théâtre. Et si en plus ce comédien, en plus il est gamer, alors là on a tout bon. On a tout bon parce qu'il arrive à se projeter dans ce qu'il va faire. Mm-hmm. Il arrive à envoyer son imaginaire dans ce qu'il fait.
Donc finalement, la voie la plus simple, c'est plus le théâtre que le doublage d'autres...
Absolument, mais dans tous les cas, pour être comédien, il faut faire du théâtre.
C'est une question d'endurance.
C'est au théâtre qu'on apprend, qu'on acquiert cette qualité dont je vous parlais, qui est l'intelligence du texte. C'est-à-dire voir une phrase... et arriver à mettre tout en imaginaire. Ok, donc là, ça veut dire que je réponds à quelqu'un, ça veut dire que je lui donne ça, ça veut dire qu'en fait, j'essaie de le manipuler, ça veut dire qu'en fait, là, en réalité, il ment. C'est-à-dire se projeter, c'est-à-dire que...
Avoir conscience de l'œuvre, agir par rapport à elle.
Avoir une vraie intelligence du texte, c'est-à-dire que vous voyez une phrase de 5 mots, et vous comprenez ce qu'elle veut dire. Et ça, ça s'acquiert. Ça s'acquiert parce que le théâtre, finalement, c'est ça. Vous avez tous vu à l'école, on vous a fait lire du Molière, vous avez deux pauvres didascalies, mais c'est à votre imaginaire d'aller comprendre quels sont en réalité les tenants et les aboutissants d'une scène, qu'est-ce que veut obtenir le personnage par rapport à l'autre. C'est très très technique au niveau comédien. Et les meilleurs comédiens de jeux vidéo sont ceux qui sont des vrais comédiens à la base, qui sont des comédiens de théâtre. Je fais pas d'élitisme ici, hein. Mais comme par hasard, depuis qu'on a commencé à faire des voix de jeux vidéo, c'est quand même, grosso modo, toujours les 50 mêmes qui font tous les jeux.
Ben c'est un vrai métier, de toute façon.
Et c'est un vrai métier, absolument.
Très bien, merci Serge d'être venu dans ce numéro du Player Club. On retrouvera de toute façon, tu as un site internet et le lien est sur la page de téléchargement de l'émission, donc on conseille formidable, à nos auditeurs d'aller consulter tout ça. Merci à LS d'avoir préparé cette interview avec moi.
Ben merci pour l'invitation.
Mais oui, et on se retrouve très vite dans cette très belle émission.
21h à 22h, le Player Club.
Vous écoutez toujours le Player Club, merci d'être avec nous, il est 21h55. J'aimerais prendre quelques instants tout d'abord pour remercier l'école multimédia qui nous a permis d'enregistrer cette émission dans leurs locaux dans le cadre de notre petit week-end et notre semaine spéciale d'émission à Paris. J'aimerais aussi vous remercier, les auditeurs, pour cette semaine spéciale, parce que vous avez été là au bar, l'Apéro Café, quand on est venu vous voir et que vous êtes aussi venu nous voir. Vous avez été au rendez-vous pour les émissions sur Twitch, ce qui était une grande première pour nous, et vous êtes encore là ce soir pour écouter ce numéro du Player Club, donc merci, cette semaine a été un succès et c'est aussi grâce à vous. De grandes choses peuvent arriver si vous êtes présent et que vous croyez en nous, donc très franchement c'est vraiment précieux que vous soyez là avec nous, à nos côtés, pour l'aventure Radio JV et aussi pour l'aventure Radio Kawa. On peut arriver à des choses très intéressantes, c'est mon avis. Par ailleurs, voilà, je pense vraiment qu'on pourra bientôt vous demander quelques coups de main, peut-être à certains d'entre vous, de rejoindre notre belle équipe, histoire de faire encore plus et encore mieux en termes d'émissions, mais aussi en termes de voilà notre site internet, notre communication, ce genre de choses. Votre fidélité aux émissions Radio JV et au récent Player Club nous donne réellement des ailes. Vous êtes de plus en plus à nous suivre, à nous écouter, et ça nous touche, pour être très honnête. Projet de jeu, le tournoi Radio JV qu'on a fait là samedi soir, il sera très bientôt disponible sur radiojv.com, je sais que vous l'attendez, il sera disponible en replay, il sera à la fois téléchargeable en podcast sur le flux podcast de Projet de jeu comme d'habitude, et il sera disponible sur notre chaîne YouTube Radio JV, et vous pouvez déjà vous y abonner, youtube.com/radiojeuxvideo, vous l'aurez dans votre petite boîte à abonnement sur YouTube. Enfin, un petit appel à témoins et un petit teasing, tant que j'y suis, puisque la semaine prochaine, dans le Player Club, je compte organiser une petite rétrospective Monster Hunter à l'occasion de la sortie du prochain opuscule sur Nintendo 3DS, et même sur New Nintendo 3DS, car il est aussi compatible avec la nouvelle mouture de la console à double écran, dont un 3D de Nintendo. Donc, si jamais vous êtes intéressé par discuter de Monster Hunter, je vous conseille de contacter le compte Twitter Le Player Club, @LePlayerClub sur Twitter, et nous entrerons en contact ainsi. Donc c'est très intéressant si jamais vous avez joué à la plupart des jeux de la série, que vous en êtes passionné, ou au contraire que vous y avez joué et que vous n'avez pas aimé du tout, eh bien n'hésitez pas à faire signe hein, et je vous recontacterai pour qu'on en parle la semaine prochaine en direct, cette fois-ci dans Le Player Club à partir de 21h. J'ai plus qu'à vous dire que voilà, l'émission peut être suivie sur Twitter @LePlayerClub. Le Player Club, c'est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain 21h en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live, et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com, là où vous allez pouvoir retrouver cette émission. Et je le crains, j'en suis vraiment fort désolé, mais avec un tout petit peu d'avance, je vais donner la parole à mes amis de Pastastic s'ils sont prêts. Pastastic, êtes-vous prêt?
Ouais, à peu près.
Ah, oh, mon dieu.
C'est terrible. J'ai depuis Pipo et Gotos, je crois, oui, que j'ai jamais eu des invités aussi indisciplinés. Hein.
Oh là là. Oh, mais rassure-moi. Alvin est arrivé.
Ça parle mal.
Alvin, non, il est pas là. Temps d'arriver.
Il est dans l'ascenseur, il est bloqué.
Ouais, il est bloqué toujours. Non, il est arrivé. Heureusement.
J'ai désamorcé la bombe. C'est bon, je suis là.
Fantastique.
C'est vrai. Alors,
c'est Alvin Stick déjà.
Non, je me casse de l'émission directe.
Oh, c'est dégueulasse ces jeux de mots. De quoi allez-vous parler, chers amis, ce soir?
On aura le test de Majora's Mask ainsi, ouais, que celui de Life is Strange épisode 1. Puis à la fin, on parlera des adaptations de jeux vidéo en cinéma ou en série télé d'ailleurs, le petit ou le grand écran. Je les sens très inspirés. Ils sont en train de faire une gueule genre, oh, mais c'est sérieux cette émission?
Oh là là.
Merde.
Et juste pour un peu plus de teasing, il y a quoi en review cette semaine?
Il l'a déjà dit.
Je viens exactement de le dire.
Majora's Mask.
Majora's
Mask. Oui, Life is Strange épisode 1. Oui.
On le répète, tu sais pourquoi? Parce que comme ça j'ai gagné 20 secondes. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.
Bah merci Inks.